Mais ce matin, le texte qu'on a, c'est les descendants de Noé qui veulent se faire un nom en bâtissant une tour et une ville. Et ce passage, j'aimerais que ce matin, qu'on puisse comprendre le danger de voir grand sans Dieu. Désir de faire des plans sans Dieu. De se bâtir un nom sans Dieu. De vouloir être indépendant de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Genèse chapitre 11. Et on va lire les 9 premiers versets. Et ici, on est dans le contexte où, après le déluge, Noé est sorti de l'arche. On sait qu'il est sorti avec ses 3 fils, sa femme ainsi que les femmes de ses 3 fils. Donc, ils sont 8. Et se sont reproduits. Leurs fils se sont reproduits également. Et lorsqu'on compare la généalogie de Noé, les descendants de Noé, on peut dire que c'est passé 100 ans entre les deux liges et la naissance de certains Pélègues. Lorsqu'on lit dans Genèse 10, 25 par exemple, il nous est dit que c'est à ce moment-là que la terre s'est partagée. Donc on peut comprendre qu'il y a 100 ans qui s'est écoulé entre le déluge et la population, puisqu'ils ont formé une tribu, un clan, et qu'il y a une langue. Et c'est là que l'histoire de Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et ce qu'ils ont entrepris, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. J'aimerais qu'on puisse regarder 2 points ce matin. Le premier point, c'est l'intention de l'homme de pouvoir construire ce qu'il veut. De construire une tour, une ville. C'est les versets 1 à 4. Le deuxième point, c'est l'intention de Dieu par rapport à cette intention de l'homme de pouvoir se construire ce qu'il veut. Mais on va voir l'intention de Dieu de défaire ce que l'homme veut, dans les versets 5 à 9. Coupons-nous dans un mot de prière, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour ta parole de vérité. Et ce matin, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à la comprendre, mais aussi à l'appliquer dans nos vies afin que nous puissions vivre humblement, Seigneur, devant toi. Assiste-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Une des choses qu'on peut remarquer en étudiant le livre de la Genèse, c'est très intéressant. Le livre de la Genèse, c'est d'ailleurs, je suis très content de pouvoir voir qu'en tant qu'Église, on passe à travers un livre comme le livre de la Genèse. On peut le résumer en 2 parties. Il y a 50 chapitres, mais ça peut être résumé en 2 parties. Il y a les 11 premiers chapitres, et ensuite, il y a les chapitres 12 à 50 qui forment peut-être la deuxième partie. Et dans la première partie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 événements majeurs qui nous sont relatés dans les 11 premiers chapitres. Il y a la création, dans les chapitres 1 et 2. Dieu a tout créé. Il nous a dit qu'au commencement, Dieu créa tout ce qui respire, tout ce qui vit. L'animé, l'inanimé, Dieu a tout créé. Alors, la création, ça c'est le premier élément, premier événement qu'on trouve dans la Genèse. Deuxième événement, c'est qu'il y a eu la chute dans les chapitres 3 et 5. Et une fois que Dieu a créé Adam et Ève, ils ont chuté en désobéissant à l'ordre que Dieu leur avait donné, de ne pas manger le fruit de l'arbre. Et troisième événement, on voit dans les chapitres 6 et 9, le déluge. La Bible nous dit que le péché était tellement rendu à un point que Dieu était obligé d'envoyer le déluge comme jugement. Et quatrièmement, les événements, on voit que c'est dans le chapitre 10 et 11, les nations. Il y a eu la création, la chute, le déluge, et là on voit la formation des nations. Comment les nations se sont créées. D'ailleurs, on dit la Genèse, c'est le livre des origines. L'origine de l'homme, l'origine du péché, l'origine de des peuples, la famille, mais c'est aussi l'origine des nations. Et on le trouve dans les chapitres 10 et 11. Et la deuxième partie du livre de si on veut séparer le livre de la Genèse, on trouve aussi quatre personnalités, quatre personnes d'influence. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Alors, vous venez de prendre un cours rapide survol du livre de la Genèse. Mais revenons on est dans la dernière partie la première partie du livre de la Genèse. Quatrième événement où ce qu'on voit là, c'est les nations. Alors, on voit que, une fois que le péché étant, d'ailleurs, peut-être finir la parenthèse ici, c'est aussi dans cette section de Genèse, on trouve aussi toutes les doctrines essentielles mentionnées. Le péché, la grâce, la promesse d'avoir le Messie. C'est très, très, très intéressant. L'homme, sa situation, le pardon, tout est mentionné. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on le lit, le premier verset du chapitre 11, toute la terre avait une seule langue. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, toute la description des peuples, des nations, la descendance des fils de Noé. En fait, le chapitre 11, les 9 premiers versets, expliquent comment ça se fait qu'il y a eu des Cushites, comment ça se fait qu'il y a eu des peuples de Canaan, comment ça se fait qu'il y a eu telle affaire. Les 9 versets vont expliquer pourquoi il y a eu cette dispersion parmi les nations. Tout le monde, parce que tout le monde parlait la même langue. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette dispersion? Même langue, même langage, même vocabulaire. Tout le monde parlait la même langue. Ronald nous regarde et dit non, c'est l'espagnol. Malheureusement, c'est ni le français ni l'espagnol. Il nous a dit que ils tous parlaient le même langage. Alors, on peut comprendre que si je dis 100 ans, c'est-à-dire c'est l'espace d'une couple de générations, les gens se sont déjà rassemblés, ils ont quitté le mont Ararat et qu'ils se sont dirigés vers les plaines, il nous est dit, vers les plaines de Chinéa. Alors, ils se sont décidés de s'installer, de s'y installer. Et tranquillement, les fils de Sem, les fils de Japhet, les fils de Cam se sont mis à faire des enfants. Et leurs enfants se sont en fait des enfants. Et là, la population s'est mise à augmenter. Et l'expression « ils étaient partis de l'Orient », c'est comme s'ils ont plié bagage et se sont mis en route pour le pays de Sinéar. Et c'est très bien parce qu'on dit que au pays de Sinéar, on est au bord de l'Euphrate et du Tigre. Donc, c'est un pays qui est très fertile. C'est très riche. Donc, c'est bien de pouvoir s'y installer. D'ailleurs, si on veut situer le pays des Chinéas, c'est à peu près l'Irak actuel. Alors, on voit que les gens commencent à se concentrer et à rester. Et là, ils ont entamé un projet de société, de pouvoir construire une ville, une tour, afin d'éviter la dispersion. C'est très étrange parce que c'est clair que Dieu avait déjà parlé à Noé et c'était déjà dans la Genèse 1, 28, par exemple, où ce qui avait été demandé à Adam et Ève, c'est d'être fécond, de multiplier la terre. Mais eux, on voit que dans le texte, ils veulent éviter la dispersion. Alors, ils se sont mis à faire un projet de société, de pouvoir construire une ville et une tour. Alors, il nous est décrit dans le verset 3 les techniques de construction qu'ils ont employées, la brique au lieu de la pierre, le bitume au lieu du ciment. Et étant donné que l'endroit où ils étaient, il n'y avait pas de roche, alors, ils sont ingénieux. Ils ont réfléchi. Ils se sont dit, comment faire? Alors, ils se sont mis sur la table à dessin. Et les plans. Et les ouvriers se sont mis à l'œuvre. Ils ont fait cuire les briques. Ils ont mis du goudron pour pouvoir, comme ciment de joint. Ils se sont mis à construire. Waouh! Et ce qui nous indique l'intensité, la volonté de leurs efforts de pouvoir arriver à leur fin. Ils voulaient leur ville. Ils voulaient construire cette tour. Malgré les difficultés, pas de roche, pas de problème, on va trouver les moyens. Et pour ça, ils ont eu un chef du nom de Nimrod. Si on lit Genèse 10, 8. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel, nous dit Genèse 10, 8. Nimrod, c'était leur leader. Il est descendant de Cam, fils de Cush. D'ailleurs, son nom, c'est très intéressant parce que son nom signifie rebelle. Et le verset 9 nous dit qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et encore là, non seulement son nom signifie rebelle, l'expression « devant l'Éternel », à chaque fois qu'on voit « devant l'Éternel », c'est comme une espèce d'arrogance ou de rébellion, lorsque c'est utilisé « devant l'Éternel ». Et peut-être en français, ça paraît moins, mais il y a une expression en anglais qui dit « it's in your face », pour dire... pour montrer l'arrogance. Je ne sais pas si ceux qui suivent un peu le basketball, moi, il y a eu un temps où j'ai suivi le basketball, un joueur qui vient et qui dunk le ballon sur un autre joueur, il le regarde, c'est comme « in your face ». C'est-à-dire que même si tu es là, je vais dunker sur toi quand même. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est-à-dire que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est-à-dire que ça sous-entend que devant l'Éternel, il faisait ce qui était contre la volonté de l'Éternel. Dans la face de l'Éternel, il agissait selon ce qui était contraire à la volonté de l'Éternel. Voilà l'idée de l'arrogance de leur chef, de leur leader. Il s'est fait un nom, Nimrod. Parce qu'on dit, comme Nimrod. Il dit, waouh, regarde, c'est lui, comme lui. Le vaillant chasseur, comme Nimrod. On pouvait regarder une personne, puis on le voit, puis on voit des qualités, où on dit, waouh, comme Nimrod. Et c'est clair, ce qui nous laisse croire que Nimrod faisait ouvertement en opposition à la volonté de Dieu. Et sa domination, nous dit le texte dans Genèse 10, que a commencé à où? À Babel. À Babel, qui deviendra le Babylone plus tard. Et à lire Genèse 10, on sait qui était Nimrod, qu'est-ce qu'il avait fait et quel était aussi son but. Alors, tout était en place. Le chef d'orchestre, les ouvriers, les architectes, les ingénieurs. Alors, ils se sont mis à l'œuvre à construire la ville et la tour. Et ça, c'est... Ce texte nous présente pour la première fois, nous donne l'exemple de l'orgueil humain. En fait, c'est la première fois qu'on voit les gens s'organiser et veulent fonctionner en dehors de Dieu. C'est le premier modèle biblique qu'on a d'une société organisée qui veulent faire des choses sans Dieu. L'orgueil, le désir de construire sans Dieu, ça a été le péché numéro un. Deuxièmement, ils recherchent la sécurité, l'amour du confort. Ils veulent s'y installer. Et malheureusement, chaque fois que l'homme essaie de se faire un nom, on voit que c'est l'orgueil. Ça fait penser à Daniel dans Daniel 4, 30, lorsque Nebuchadnezzar, en parlant aussi de la construction de Babylone, Nebuchadnezzar dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissance, par ma force, pour la gloire de ma magnificence? Et ceux qui connaissent l'histoire de Nebuchadnezzar, on sait comment qu'il a fini. À chaque fois que l'orgueil humain, l'orgueil de l'homme. Et on va le voir comment que ça s'est produit également pour les gens, les bâtisseurs de cette tour et de cette ville. C'est voué à l'échec. Tout projet sans Dieu est voué à l'échec. Ceux qui bâtissaient avaient deux objectifs. Se faire un nom et ne pas être dispersés sur la face de la terre. D'ailleurs, même dans leur façon, on dit qu'une tour dont le sommet touche au ciel... Très prétentieux. C'est une arrogance. Il voulait être célèbre. Bâtissons donc une ville et une tour. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Donc le premier objectif, c'est de dire, ben regarde, nous on veut être célèbre, on veut être connu, on veut se faire un nom. Il voulait un nom. Voulait avoir la sécurité et pensait que, justement, en construisant cette tour, il pouvait aller avoir ces deux choses. En fait, ils voulaient être maître de leur destin. Mais vous savez, en agissant ainsi, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui construisaient, c'était en désaccord même avec la volonté de Dieu. C'est vrai que la tour est devenue un symbole de leur indépendance, n'y a rien de différent d'aujourd'hui. On vit dans une société où ce que l'esprit de Babel est encore très présent. On veut être indépendant de Dieu. D'ailleurs, on est encouragé à penser, à faire ce que nous, on peut faire. Il n'y a pas de limite pour nous. Crois-le et tu y parviendras. Et leur désir de construire la ville pour leur propre gloire. Et ça indique clairement comment ils veulent être, leur désir d'être indépendants. Ne pas être dispersés. On sent que juste le fait qu'ils mentionnent que, écoute, on va faire ça, parce que l'objectif, c'est de ne pas être dispersé. On voit qu'ils sont conscients quand même qu'il y avait un mandat, il y avait un commandement. Ils étaient conscients de ce que Dieu avait déjà dit. Que soyez féconds, multipliez et répandez-vous. Mais cette volonté, cette disposition, cette manière de voir les choses était en opposition directe avec Dieu. Comme j'ai dit, lorsqu'on lit dans Genèse 1, 28, ça a été clairement dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et dans chapitre 9, au verset 1er, après le déluge, on voit que Dieu fit alliance avec Noé. Et il y a eu un nouveau commencement. Parce que la terre a été anéantie. Il y a eu seulement Noé et ses fils et ses belles-filles. C'est comme s'il y a eu un nouveau commencement. Alors Dieu fit alliance encore avec Noé. Et savez-vous quoi? Il répète la même chose à Noé et à ses fils. Il prononce les mêmes paroles. Il donne le même commandement. Et nous lisons ceci dans le verset 1. Il dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et plus loin dans le verset 7, il dit la même chose. Dans le chapitre 9, verset 7, « Soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous en grand nombre sur la terre. » Donc, ce qu'on remarque, c'est que l'idée même de construire une tour et une ville était en opposition avec la volonté de Dieu. C'était à l'encontre même du mandat que Dieu les avait donné. Mais ils ont décidé qu'ils ne rempliraient pas ce mandat. Écoute, nous, là, nous avons décidé de faire un choix de société. Nous avons décidé collectivement que nous nous établirons ici. On va se faire un nom. On va assurer une protection pour les générations futures. C'est un langage très commun d'aujourd'hui. En tant que société, on fait des choix. Fait des choix. Et nous allons nous établir ici. Ah, mais je suis convaincu que les gens qui étaient ce jour-là à Babel en train de construire, s'ils étaient au Québec, ils auraient eu les mêmes expressions aujourd'hui. Collectivité, société. Alors, notre choix, c'est de nous établir ici. D'ailleurs, ici, la terre est riche, fertile. Pourquoi aller ailleurs? On est bien ici. Confort, on est bien. On a tout ce qu'il faut. On est très bien ici. Pourquoi se disperser? Aller chercher le trouble. Pourquoi? D'ailleurs, on ne peut pas avoir mieux ailleurs. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas avoir mieux ailleurs. Ce qu'on remarque, c'est qu'à cause du confort, à cause qu'ils ont trouvé dans la plaine de Shinéar, on voit que leurs objectifs de vie a complètement devient exactement le contraire de l'objectif que Dieu avait fixé pour eux. On a vu à trois reprises, Dieu leur a demandé de se multiplier, d'être fécond et de se répandre, de se disperser. Mais là, ils sont trop bien. Trop bien. D'ailleurs, certains voient dans cette construction de tour un aspect spirituel parce qu'ils veulent se rendre à Dieu. Je ne suis pas plus en accord avec cette vision. Je pense que la tour, c'est tout simplement une tour. Il n'y avait pas nécessairement un caractère spirituel à donner à cette tour. Mais l'idée principale, c'est de dire que on s'installe et on se fait un nom. Et l'objectif principal, pourquoi ils veulent faire ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas être dispersés. Ils ne veulent pas être dispersés. Si on regarde ça, ils sont en train de migrer. Ils sont partis de l'Orient, ils migrent vers le pays de Shinéar, ils y habitent. Ils s'encouragent à faire des briques. Ils s'encouragent à bâtir la ville et la tour pour se faire un nom. Parce qu'ils ne veulent pas être disséminés à la surface de la terre. Et lorsqu'on voit, c'est que, en réponse à ce comportement arrogant, en réponse à cette volonté de désobéir au plan de Dieu, Dieu va confronter la rébellion de l'homme. Dieu va défaire ce projet de société. Et c'est très intéressant, lorsqu'on arrive au verset 5 de Genèse 11, on dit que Dieu va descendre pour voir ce projet que l'homme est en train de construire. Et c'est très, je dirais, humoristique de la façon dont ça se passe dans les versets 5 à 9. On dit que dans la tournure même qui est employée, Dieu va descendre pour voir ce qui se passe. C'est comme si Dieu ne voit pas d'en haut. Pourquoi il a besoin de descendre? Ça se peut-tu que c'est parce que la tour était tellement petite? Mais vous voyez le lien, c'est que les hommes sont en train de dire, « Ben, je vais faire une tour qui va pouvoir s'ériger jusqu'au ciel. » Mais Dieu est obligé de descendre pour voir la tour. C'est vrai, il y a peut-être un élément d'ironie ici. Donc, pousse à voir que ce que l'homme voit grand, c'est une infime, très infime par rapport à ce que Dieu voit. Mais c'est plus encore dans l'expression Dieu descend. Il y a quelque chose encore de plus fort que ça, que juste cette ironie par rapport au projet de société que l'homme s'est fait. Parce qu'à chaque fois qu'on voit que Dieu descend pour faire quelque chose, le jugement accompagne son action. Si Dieu descend, il y a quelque chose qui accompagne à chaque fois. Et Dieu descend pour apporter son jugement. Dieu dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté de faire. Ce verset, lorsqu'on lit le verset 6, explique qu'aurait eu sur l'homme l'achèvement d'un tel plan. C'est vrai que si l'homme avait continué, si Dieu n'est pas intervenu pour empêcher l'homme, Dieu dit que, wow, il va avoir un impact. C'est pas que Dieu craignait que les hommes vont échapper à son contrôle. Non, non, rien de ça. Mais il dit, si je les laisse faire, le péché va être à un tel point que je vais être obligé aussi d'appliquer le même jugement que j'ai fait lors du déluge. D'ailleurs, ce qu'on voit dans le verset 6, c'est la grâce de Dieu, malgré son intervention. Parce que s'il aurait laissé l'homme continuer son plan de société, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Mais le péché aurait pris une tournure, une ampleur telle qu'il allait appliquer un jugement aussi sévère qu'il l'a fait lors du déluge. Mais on voit que Dieu limite les dégâts en intervenant. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, il vient, il arrête leur folie et il confond leur langage. Alors, moi, j'ai travaillé dans des chantiers pendant plusieurs années et j'aurais aimé voir comment ça se passe. C'est comme le maçon est en train de dire, « Hey, passe-moi la brique, là, j'ai besoin de la brique. » Et qui? Qui ça? What? Je ne comprends plus. Dieu intervient et confond leur langage. Oh oui, le bitume. Qu'est-ce, Seigneur? Elle ne comprend pas. Wow, ça doit être la cacophonie, le brouhaha sur ce chantier de construction. Et là, les gens ne comprennent plus. Alors, j'imagine les ouvriers qui s'en vont voir leur contremaître, puis ils disent, ah, il est en train de expliquer la situation. Mais là, je lui demande de me passer le bitume. Le contremaître est là. Lui non plus, il ne comprend pas. Juste imaginez la situation sur le chantier, la confusion qui règne. Dieu intervient et il confond le langage. Et vous savez quoi? C'est ce qui est intéressant dans le texte, c'est le projet de l'homme qui était de se bâtir cette tour, cette ville, avec l'intention de ne pas être dispersé. C'est exactement ce qui va se passer. Dieu descend, confond le langage, et là, et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Toutes les nations que vous avez vues, c'est à cause de cette arrogance de l'homme, à cause de cette volonté de l'homme de pouvoir faire un projet sans Dieu. Et là, Dieu confond le langage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les nations qu'on a aujourd'hui. L'origine des nations viennent de là. Alors les gens se sont mis à ne pas se comprendre. Les deux qui pouvaient se comprendre, mais ils se sont mis ensemble, puis ils se sont dirigés vers l'est, l'autre vers le nord, l'autre vers le sud. Et il y a une autre observation très intéressante aussi dans le texte. Et dans le langage théologique, ils appellent ça un parallélisme antithétique. Bon, ça, c'est tout simplement pour exprimer, dans le texte, il y a une constante tension entre certains versets dans le texte. J'aimerais ça juste que vous puissiez avoir ces neuf versets sous vos yeux. Par exemple, si on prend le verset 1, qui est mis en contraste avec le verset 9. Au verset 1, il nous est dit que tout le monde avait la même langue. Hein? Tous avaient le même langage. Au verset 9, il y a eu la confusion des langues. Plusieurs langues. Le verset 2 est mis en contraste avec le verset 8. Ils ont trouvé une plaine et ils y habitèrent. Donc, il y a eu un endroit, Shinéar, et ils se sont mis à s'installer. Au verset 8, ils sont dispersés aux quatre coins de la planète. Au verset 3 et 4 est mis en contraste avec le verset 7. On voit que les gens se sont dit, allons, bâtissons. Hein? J'aime le geste. Allons et bâtissons. Allons et bâtissons. Et le verset 7. Dieu, allons, descendons et confondons-les. Allons et confondons-les. Très intéressant comme observation. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, pendant que l'homme s'est mis d'un objectif de pouvoir construire, faire ce qu'il veut, qui est hors du plan de Dieu, mais Dieu vient et défait ce plan. Alors, les plans de l'homme ne détourneront, ce qu'on peut comprendre, c'est que le plan de Dieu ne détourneront jamais le plan de Dieu. Peu importe ce que l'homme va vouloir faire, Dieu a un plan. Et son plan s'accomplira certainement. Certainement. Dieu avait ordonné de remplir la terre, mais l'homme a préféré de s'établir plutôt que d'obéir à l'ordre de Dieu, de se disperser. Mais ils finiront quand même par se disperser. Parce que c'était le plan de Dieu que l'homme soit dispersé. Dieu avait un plan pour l'humanité. Il voulait que la terre entière soit peuplée par les fils de Noé. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir dans Actes des Apôtres, dans Actes 2, malgré le jugement exécuté à Babel, on voit que l'Évangile a pu être annoncé à toutes les nations. L'Esprit de Dieu donna aux hommes la capacité de s'exprimer en langues diverses pour porter à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. C'était aussi dans le plan de Dieu. Et à la Pentecôte, on voit que les langues furent données aux apôtres pour faire entendre la grâce à toutes les nations, jadis dispersées. Et j'irai encore plus loin, c'est que dans Actes 8, Dieu avait donné aux disciples, en parlant de Jésus, qui avait recommandé aux disciples de prêcher la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Alors, eux, ils sont restés à Jérusalem. On est bien à Jérusalem. Les frères sont là. Mais dans Actes 8, ce qu'on voit, c'est que Dieu veut accomplir son plan. C'est que les nations entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez quoi? Il a envoyé quoi? La persécution. Alors, quand que Jérusalem, il y a eu la persécution, les gens se sont mis à disperser. Et là, l'Évangile s'est mis à se répandre aux nations. La volonté de Dieu ne peut être résistée ni être contrariée. Et dans le chapitre 5 dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a une foule de rachetés qui entoure le trône de l'agneau, qui est composé de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Lorsqu'on voit qu'à Babel, où il y a eu une division des langues, mais il va y avoir un temps où on voit que Christ, lui, a réuni les gens de toute langue pour former un seul peuple. Et c'est lui, par son sang, l'agneau immolé qui a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue. Et Jésus l'a fait, pas que Jésus a cherché à avoir un nom, mais c'est Dieu qui lui a donné ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et à chaque fois qu'on voit que quelqu'un essaie de se détourner de la volonté de Dieu pour faire à sa tête, cela amène inévitablement à la confusion. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Psaume 127, 1. Des fois que nous aussi, nous comme croyants, nous sommes des fois si préoccupés à nous construire des tours, à construire des villes, notre propre vie. On est préoccupé, on construit des choses, alors qu'on devrait se préoccuper des choses du royaume d'abord. On est pris en pleine construction, avec des choses qui sont des fois contraires à la volonté de Dieu. Des choses bonnes, oui, mais contraires à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant parce que pas plus tard après, donc on est au chapitre 11, au chapitre 12, commence l'histoire d'Abraham. Au verset 2, on voit que Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Les gens de Babel, les gens qui construisaient, voulaient eux-mêmes se faire un nom. Mais que ce soit pour Abraham ou même Jésus que Dieu a souverainement élevé, c'est Dieu qui rend ou qui donne un nom. Et ce matin, ce que j'aimerais vous encourager, c'est apprendre à avoir confiance et à obéir à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu et à lui obéir. On vit dans une société où on est bousculé, on travaille, on est occupé à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Qui des fois, c'est pour notre confort. Et on voit qu'est-ce qui arrive lorsque on est très, très confortable. Il n'y a rien de mal à être confortable. Entendons-nous. Avoir une belle maison, avoir... je ne sais pas qu'est-ce qui est pour vous le confort. Il n'y a rien de mal à avoir une bonne vie. Mais remarquez bien, ce qui accompagne souvent ce confort, et c'est l'exemple qui nous est donné aux gens qui se sont établis, et tranquillement notre dépendance à Dieu commence à diminuer. Oh Seigneur, j'ai besoin du Seigneur de moins en moins. Alors je lui fais confiance de moins en moins. Et plus en plus qu'on lui fait, en fait, plus en plus qu'on va descendre comme ça, mais c'est plus aussi qu'on s'en va à notre perte. Plus on oublie Dieu, et plus notre jugement ou notre... par rapport au plan de Dieu qui a pour nous une conséquence. Alors que Dieu vraiment nous donne à comprendre, à apprendre, à simplement avoir confiance en lui et à lui obéir en toute chose. Parce que son plan, il est dit dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Précède la chute. Et dans notre confort, on peut devenir très facilement orgueilleux parce qu'on se pense arriver. Mais l'orgueil précède la chute. Alors que ça soit une exhortation pour nous tous à pouvoir constamment dépendre de Dieu, à lui faire confiance. Amen.